Décryptage, Marie Cazadebé.
À moins de 3 semaines des élections législatives en Israël, les deux principaux candidats étaient à Washington ce lundi. Benny Gantz, ex-chef d'état-major, s'est présenté devant l'AIPAC, lobby pro-israélien. Benjamin Netanyahou, le premier ministre sortant, aurait dû lui aussi prononcer un discours. Si le devoir ne l'avait pas rappelé en Israël, frappé la nuit dernière par un tir de roquette. Cela s'est passé dans le nord de Tel Aviv.
Boom. J'ai entendu un gros boom. Je suis arrivé et j'ai vu la mère de famille blessée. Je les ai aidés à sortir.
Je suis très choquée. C'est si calme ici d'habitude. J'espère que tout reviendra à la normale demain.
Avant de s'envoler, Benjamin Netanyahou a pu s'entretenir avec Donald Trump. Il a ensuite donné son feu vert à des frappes aériennes sur Gaza. Elles ont visé notamment un site du Hamas. Ce soir, dans Décryptage, on va se demander si Washington est un passage obligé pour les candidats israéliens, si ces élections se jouent aussi aux États-Unis. Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue à tous. Bonsoir Jean-Paul Chagnolot.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes professeur émérite des universités, président de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient, l'IREMO. Nous sommes aussi au téléphone de Jérusalem avec Frédéric Chilot. Bonsoir.
Bonsoir.
Historienne, spécialiste d'Israël et des relations internationales, vous êtes co-auteur de Jérusalem, histoire, promenade, anthologie et dictionnaire aux éditions Robert Laffont. Benjamin Netanyahou avait promis une riposte vigoureuse après le tir de roquette qui a fait 7 blessés. L'armée israélienne donc n'a pas tardé à procéder à des frappes. Jean-Paul Chagnolot, je l'ai dit, nous sommes à un peu plus de 2 semaines des élections législatives. Dans quel sens ce contexte pourrait influencer le Premier ministre dans sa riposte?
Moi, je crois que nous sommes dans un schéma malheureusement assez classique, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une tension, et a fortiori lorsqu'il y a des frappes de ce genre, le Premier ministre en place, et c'est Netanyahou depuis des années et des années, doit avoir une posture impérativement sécuritaire. Lorsqu'il y a eu cette roquette qui est tombée en Israël venant de Gaza, sans qu'on sache vraiment qui l'a tiré, immédiatement tous les acteurs politiques qui sont en lice actuellement pour ces élections ont reproché à Netanyahou son manque de vigilance. Et enfin, c'est une sorte de jeu politique, parce que en réalité il n'y a pas de manque de vigilance, on ne peut pas prévoir une affaire comme celle-là, et donc il est clair que Netanyahou était contraint de montrer qu'il avait aussi la capacité d'assurer la sécurité. Ça fait partie du jeu politique, et c'est central en Israël, évidemment, la question de la sécurité. Par conséquent, il a aussitôt, en plus, le geste de revenir des États-Unis, même si c'était, à mon avis, pas absolument nécessaire en termes véritablement de sécurité, il l'a fait, et politiquement, c'était très important, je crois. Et voilà, donc on est dans ce schéma, et donc ça montre aussi ce que sont ces élections. Il y a sans arrêt ces questions de sécurité qui sont évidemment une réalité, mais en même temps c'est très largement instrumentalisé, et on en oublie les questions centrales, et les acteurs sont tous sur les mêmes positions de très très grande. C'est pas simplement la fermeté, c'est une volonté de ne rien céder aux Palestiniens, et par conséquent il n'est plus question même d'envisager des négociations, et moins encore un État palestinien, ce qui est dramatique à terme, parce que ça veut dire que c'est une impasse et que nous sommes dans une période où la violence risque à nouveau de ressurgir, pas simplement celle de ces jours-ci, mais plus profonde, car les frustrations sont considérables du côté palestinien.
Vous pensez qu'Israël, là, est prête à une nouvelle confrontation armée, une nouvelle guerre avec la bande de Gaza? Est-ce que vous sentez que tous les éléments là sont réunis?
Sur un plan purement rationnel, il n'y a aucune raison de monter en puissance et d'arriver à un conflit dont on ne sait pas ce qu'il pourrait en advenir, justement dans la perspective de ces élections qui sont demain. Donc ça m'étonnerait, mais on ne peut jamais rien prévoir dans ce type de situation. Je crois qu'il y a ces frappes qui sont classiques. Maintenant, est-ce qu'on va dans une escalade? Je ne pense pas. On verra dans les prochains jours.
Frédéric Chilot, est-ce que c'est ce que la majorité des Israéliens attendent de leur Premier ministre, une réponse ferme et même militaire?
Oui, vous savez, c'est un petit peu l'illustration parfaite de la maxime de Kissinger. Israël n'a pas de politique étrangère, Israël n'a qu'une politique intérieure. Toutes les élections se jouent sur la sécurité. D'autant plus que Netanyahou se fait appeler Monsieur Sécurité. Depuis quelques mois, il assure lui-même le portefeuille du ministère de la Défense, dont on attendait absolument de lui qu'il revienne de Washington et qu'il se charge de ce dossier. Il y est prié à la fois par l'opposition et notamment les chefs de l'Alliance Bleu-Blanc qui sont aujourd'hui quand même, il faut le savoir, trois anciens chefs d'état-major qui l'attendent au tournant. Mais il est aussi pressé par sa propre coalition et les gens en fait de sa coalition d'extrême droite qui lui demandent une position très ferme. On l'a vu aujourd'hui dans tout le déroulement de cette journée. Ce sont les politiciens de droite et de son extrême droite, annexionnistes par ailleurs pour la Cisjordanie, qui réclament une politique ferme contre les Palestiniens à Gaza. Et certains ne demandent pas à occuper à nouveau Gaza, mais du moins à entrer à Gaza pour une opération militaire très ferme. Donc Netanyahou est un peu au tournant, il est attendu au tournant. Il lui faut faire une position, prendre une politique extrêmement ferme, mais s'arrêter juste avant qu'évidemment ce ne soit une véritable escalade et qu'on soit à nouveau en guerre. Ce soir, par exemple, c'est à nouveau un cycle de représailles et d'escalade, peut-être demain un nouveau cycle de désescalade. En tout cas, ce soir, il y a de nombreux cibles du Hamas qui ont été visées, et notamment le quartier général d'Ismaël Haniyeh, qui est le chef de la branche politique du Hamas. Donc c'est un message extrêmement fort. Maintenant, on verra comment vont réagir les groupes terroristes à Gaza. Et on sait que cette requête n'a pas été revendiquée.
On comprend en tout cas donc que le contexte électoral est central dans la réponse d'Israël après ce tir de roquette. Il l'était aussi dans la visite de Benjamin Netanyahou à Washington, nous le verrons. Mais l'était-il aussi dans l'annonce de Donald Trump jeudi dernier par Twitter et relayé au même moment par Mike Pompeo en visite en Israël?
En tant que cadet, j'ai étudié les batailles du Golan. Il y a une bataille célèbre appelée bataille de la vallée des larmes, et c'était l'héroïsme israélien dans sa forme la plus épatante. Ce soir, le président Trump a pris la décision de reconnaître que ce territoire si chèrement acquis, que ce lieu important est une partie souveraine de l'État d'Israël. Le président Trump a pris une décision courageuse, une décision importante qui sera véritablement historique pour le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël doit savoir que les batailles qu'il a menées, que les vies qu'il a perdues sur ce même territoire avaient du sens et qu'elles seront à jamais importantes.
D'abord, Jean-Paul Chagnolo, du statut du plateau du Golan, pour qu'on comprenne bien. On est là à la frontière entre Israël et la Syrie. Aux yeux de la communauté internationale, il s'agit d'un territoire occupé. Ça veut dire que le geste de Donald Trump est très très fort en symbole, mais pas que. C'est un vrai geste stratégique.
Je crois, oui. Alors, sur le plan juridique, c'est extrêmement clair et extrêmement simple. C'est un territoire occupé. Il y a un principe fondamental en droit international qui est le principe de non-admissibilité de l'acquisition d'un territoire par la force. Mmh. On ne peut acquérir un territoire, échanger des frontières qu'à l'issue de négociations où chacune des parties est d'accord. Donc c'est un principe majeur, parce que sinon ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes dans la loi de la jungle la plus totale. Mmh. Nous, Français, si on veut aller, on va à Bruxelles et on met la main sur la Belgique et voilà. C'est une absurdité totale et c'était gravissime, bien entendu. Donc, Trump a, en fait, nié, brisé un principe absolument essentiel en prétendant ainsi unilatéralement reconnaître une annexion, qui est une annexion unilatérale. Mais sur le plan juridique, ça n'a aucune valeur. Mmh. Et d'ailleurs, les Européens, par exemple, l'Union Européenne en tant que telle, la France et les pays européens ont aussitôt dit il y a des règles du droit international, il faut le respecter. Donc là, c'est plutôt un geste, une fois encore, pour soutenir l'État d'Israël, et plus encore, sans doute, pour s'affirmer dans son électorat, qui est en grande part très pro-israélien, enfin du moins une certaine lecture d'Israël. Il faudrait pouvoir avoir le temps de bien montrer que c'est aujourd'hui au pouvoir, c'est tout de même la droite et l'extrême droite et le jeu politique actuellement dans la pour vous donner juste un chiffre, la gauche aujourd'hui, le Parti travailliste et le Meretz, qui est à la gauche du Parti travailliste, dans les sondages sont à environ 15 sièges sur une Knesset, un parlement qui est de 120. Et pour vous donner une comparaison, en 1992, quand Rabin qui a ensuite initié Oslo était au pouvoir, le Parti travailliste et le Meretz c'était pas loin des 60, il était à 45, 50, enfin vous voyez un peu, donc un effondrement de la gauche. Et le jeu actuel, c'est entre la droite et la droite extrême et l'extrême droite. Et tout cela dans une espèce de tunnel idéologique assez impressionnant qui conduit en fait à vouloir écraser tout ce qui est palestinien et donc annexer.
Alors là, quel est le message des États-Unis? On l'a fait au Golan, on peut le faire ailleurs.
Mais bien entendu, parce que les États-Unis, il y a aujourd'hui, si vous voulez, avec ces positions qu'a pris Trump, mais pas simplement sur le Golan, il a pris sur Jérusalem aussi, qui était encore plus important, évidemment, d'un point de vue symbolique, et ça n'a aucune valeur sur le plan de droit international, mais ça renforce la conviction de ces hommes de droite et d'extrême droite qui peuvent tout faire, et par conséquent, qui peuvent piétiner le droit international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une séquence dont le terme, si ça continue comme ça, eh bien, sera forcément des violences. On s'éloigne de toute possibilité d'une vraie discussion politique et d'un vrai compromis politique. En ce sens, c'est assez grave. C'est très grave.
Frédéric Chilo, alors je vous repose la question. Est-ce que le contexte électoral est là aussi central dans l'annonce de Donald Trump concernant le plateau du Golan?
Là, clairement, Netanyahou avait besoin d'un geste fort parce qu'il est cerné par des affaires de corruption. Et les dernières affaires de corruption qui ont été lancées il y a deux jours, le dossier a été réouvert par la police, elles concernent rien moins que Tsahal. Donc là, c'est quelque chose qui est absolument sacré en Israël.
Oui, concerne l'armée israélienne.
D'argent. Oui, l'armée israélienne. Et donc, il lui fallait un geste fort. Et d'ailleurs, on s'est étonné en Israël que ce geste arrive la semaine dernière et non pas aujourd'hui, où Netanyahou rencontre Trump. Il l'a fait au moment même où a surgi cette énième affaire de corruption. Alors, vous savez, pour cette question du Golan, de la même façon que pour Jérusalem, il y a un consensus en Israël pour reconnaître que Jérusalem, c'est la capitale d'Israël, et que pour reconnaître que le Golan, c'est un territoire qui est aujourd'hui contrôlé par Israël, et le consensus, c'est que les Israéliens ne sont pas prêts de le rendre. Alors ça n'a pas toujours existé, parce que souvent les Israéliens ont proposé un retrait, non pas total, mais un retrait partiel du Golan aux Syriens. Et figurez-vous que les derniers à l'avoir proposé dans des négociations, eh bien, c'était Netanyahou, en 2008, qu'il avait proposé dans des négociations indirectes avec Bachar al-Assad. À l'époque, c'était la Turquie qui faisait le rôle du médiateur. Tout ça a bien changé parce qu'entre-temps, évidemment, il y a eu le printemps arabe et puis la répression sanglante de Bachar al-Assad. Et depuis, il est impensable pour les Israéliens de se retirer de cet espace absolument stratégique parce que c'est un peu le balcon d'Israël. Et puis surtout, il contrôle les zones, le Jourdain et le lac de Tibériade qui est absolument essentiel pour Israël. Néanmoins, ce n'est pas une raison pour que les Israéliens acceptent ces coups d'éclat, ces coups de menton de Trump. Et beaucoup s'interrogent en Israël pour savoir à quoi bon le faire aujourd'hui. Depuis 2011, il y a un consensus, les Israéliens ne vont pas rendre le Golan. Ils ne vont pas négocier avec Bachar al-Assad pour rendre le Golan. Mais pourquoi Trump décide-t-il aujourd'hui une reconnaissance unilatérale et cette signature qui est liée aujourd'hui à la Maison Blanche? Pourquoi en fait troubler le statu quo?
Alors justement, pourquoi aujourd'hui, Jean-Paul Chagnolot, est-ce que vous avez une idée pourquoi choisir cette date-là?
Je crois que c'est sans doute la façon dont Trump a de soutenir Netanyahou et soutenir la politique de Netanyahou. Je crois qu'il faut vraiment comprendre que dans ces élections et dans ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a plus aucune véritable, à mes yeux en tout cas, de réflexion sur l'avenir à long terme d'Israël et donc la possibilité d'ouvrir des négociations avec les Palestiniens. C'est complètement fermé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les acteurs sont complètement marginalisés, l'autorité palestinienne est totalement affaiblie, le Hamas j'en parle pas parce qu'ils sont enfermés dans leur idéologie sectaire, et puis par rapport à la Syrie on sait ce qu'il en est. Donc c'est vrai que la séquence aujourd'hui est assez dramatique de ce point de vue-là. Mais il n'empêche que en Israël, il y a effectivement une montée en puissance d'une lecture très très dure à l'égard des Palestiniens, et par conséquent nous sommes un peu dans un enfermement. Le dernier parti qui vient de se créer par exemple en Israël s'appelle Identité Juive, et c'est très très caractéristique. Nous sommes en train de voir se construire, et c'est pas nouveau, ça a déjà quelques années, une sorte de parti, enfin de pays, d'État ethno-nationaliste, et qui s'éloigne beaucoup des valeurs qui étaient autrefois celles d'Israël. Et c'est pas par hasard, par exemple, si beaucoup de juifs américains aujourd'hui sont très critiques, parce qu'ils ont le sentiment que, et c'est pas un sentiment, ils ont fait des déclarations très fortes pour dire que nous n'acceptons pas cette dérive vers quelque chose qui est extrêmement grave.
On va y venir, Jean-Paul Chagnolot, justement, aux Américains juifs, mais je vous propose juste d'écouter la réaction de Benjamin Netanyahou à cette annonce, donc la semaine dernière, de Donald Trump, les États-Unis, donc qui reconnaissent la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan.
Le président Trump vient d'écrire une page d'histoire. Je l'ai appelé, je l'ai remercié au nom du peuple d'Israël. Il l'a fait une fois de plus. Le message que le président Trump donne au monde est que l'Amérique est aux côtés d'Israël. Nous sommes très reconnaissants du soutien des États-Unis. Nous sommes très reconnaissants pour le soutien inimaginable et sans équivalent pour notre sécurité et le droit à nous défendre. Et tout ce que fait Donald Trump pour Israël.
Jean-Paul Chagnolot, vous voulez ajouter un mot ?
Oui, je voudrais juste faire un rappel historique. Le Golan est syrien. C'est un territoire occupé, qu'il y ait ou non un consensus en Israël. Mais le Sinaï était égyptien. Et comment est-ce que on a réglé la question de la sécurité d'Israël vis-à-vis de l'Égypte, qui était le grand pays antagoniste, le grand pays qui, sur le plan militaire, contre Israël? Eh bien, on a trouvé un traité de paix et on a rendu le territoire. Donc la vraie façon de, à long terme, d'assurer une sécurité de l'État d'Israël, c'est les traités de paix. Ça a été fait avec l'Égypte, ça a été fait, alors c'était plus facile évidemment avec la Jordanie, mais donc l'idée de conserver dans ces conditions le Golan n'a pas beaucoup de sens à terme, quel que soit par ailleurs le consensus. D'autant plus que la dimension stratégique du Golan n'est plus ce qu'il était, parce que autrefois, c'est vrai, il y avait une capacité militaire importante en termes de bombardement, de chars. Aujourd'hui, vous savez, c'est les missiles. Alors, les missiles, on les tire de n'importe où, on l'a bien vu. Même des bricolages comme ceux qui ont été faits peuvent conduire à beaucoup de pertes. Je pense à la roquette qui a été tirée et qui a été manifestement bricolée. Et donc, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Donc, vous voyez, on est dans un schéma comme celui-là. Et si on va un peu plus loin, Trump n'arrête pas de parler du plan de paix historique qu'il veut proposer aux uns et aux autres, aux Israéliens et aux Palestiniens, et il fait une série d'actes unilatéraux qui vident tout son plan de paix d'une substance, si toutefois il en avait une. Et ça, c'est sur le long terme, ou même sur le moyen terme, c'est évidemment extrêmement contre-productif.
Un plan de paix qu'il doit dévoiler donc après ces fameuses élections du 9 avril. Alors, si Benjamin Netanyahou n'avait pas eu à écourter son séjour à Washington, il aurait prononcé un discours devant l'AIPAC ce lundi, l'American Israel Public Affairs Committee. C'est un lobby pro-israélien, Jean-Paul Chagnolot. À quel point il est capable d'influencer la politique américaine au Proche-Orient? On a vu aussi le grand rival de Benjamin Netanyahou, Benny Gantz, aujourd'hui prononcer un discours. Est-ce que c'est un passage obligé encore?
Oui, c'est un passage obligé. C'est effectivement une organisation très importante. Mais paradoxalement, aujourd'hui, je crois que Trump va beaucoup plus loin que ce que voudrait l'AIPAC, ou en tout cas beaucoup de juifs américains. Il y a eu aux États-Unis beaucoup de voix importantes des communautés juives américaines qui critiquaient les positions de Netanyahou, et en particulier les décisions que prenait Netanyahou de s'allier avec des gens d'extrême droite. Et aujourd'hui, la question de l'enjeu de ces élections, c'est moins un enjeu politique au sens de telle ou telle option politique, c'est un enjeu de pouvoir, vraiment, c'est la question du pouvoir.
Et en plus, ces lobbies, Jean-Paul Chagnolot, n'ont plus beaucoup d'influence non plus sur Donald Trump.
Il n'en a pas besoin. Il a déjà sa politique depuis très longtemps, il a quelques idées simples sur cette affaire, et il l'écoute. Parce que s'il écoutait vraiment la communauté juive américaine, qui d'ailleurs vote plutôt très largement démocrate que républicain, eh bien il aurait des positions sans doute un peu différentes. Il faudrait sans doute assurer la paix et non pas simplement faire des coups de ce genre. Et Netanyahou, comme ça a été rappelé tout à l'heure à juste titre, est dans des ennuis judiciaires assez considérables. Il y en a encore une nouvelle il y a quelques jours. Et donc, au fond, pour lui, il y a aussi une dimension très personnelle de survie politique. Et donc, il est prêt à tout. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il est prêt à tout. Et donc, à toutes les concessions avec des alliés d'extrême droite qui pourraient l'emmener très très loin.
Voilà, dans un contexte évidemment où les tensions sont très très vives dans la bande de Gaza, on va suivre évidemment ça au jour le jour sur RFI. Merci beaucoup Frédéric Chillot, je rappelle l'ouvrage que vous avez coécrit, Jérusalem, histoire, promenade, anthologie et dictionnaire. Merci Jean-Paul Chagnolo, président de l'IREMO, et merci à toute l'équipe de Décryptage.